RCF. Bonjour, en ce mardi 5 mars, le magazine régional de 18h10 à 19h avec au sommaire dans quelques instants nos chroniqueurs habituels avec Jean-François Boulanger et Mémoire Chrétienne, un maire, c'est Alain Massot, le maire de Doumélu-Bogny dans les Ardennes, et puis nous écouterons Thierry Huet qui était ce matin notre invité en direct, il reviendra sur le salon de l'agriculture, et puis nous évoquerons un rendez-vous qui aura lieu non pas le prochain week-end, mais le week-end suivant, du 15 au 17 mars, avec Sylvie Lahotte, qui nous parlera du festival Jubilaté. On retrouvera la maraude du Secours catholique, avec Marie-Annick Roger et le docteur Thierry Jacoteau. Puis nous reviendrons sur le témoignage de Thierry Huet de ce matin. Et puis nous écouterons, si nous avons le temps, Parole de jeune avec Jeanne Boudre, qui parlera de la spécialité latin selon Hugo, un jeune étudiant qu'elle connaît. Alors tout de suite, sans plus attendre, vous le savez qu'hier, on l'a appris, c'était aux alentours de 19h, le vote massif au Parlement pour l'introduction de l'IVG dans la Constitution. Nous avons aussi rappelé hier soir, dans un communiqué de la Conférence des évêques de France, que comme catholique, indiquait Mgr Éric de Moulin-Beaufort, nous aurons toujours à rester des serviteurs de la vie, de tous et de chacun, de la conception à la mort. Les évêques disent leur volonté de soutenir ceux et celles qui choisissent de garder leur enfant même dans des conditions difficiles, mais d'entourer de notre respect et de notre compassion ceux et celles qui ont eu recours à l'avortement. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir très largement. Mais tout de suite, sans transition, c'est Mémoire chrétienne, le rendez-vous du mardi avec Jean-François Boulanger au micro d'Alexis Claudrette.
Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Épisode 9 consacré à Clovis et cette fois son rapport avec les protestants. C'est vrai que l'émission Mémoire chrétienne s'intéresse à la mémoire de toutes les églises chrétiennes, même si elle consacre effectivement plus de place à la ou les mémoires catholiques qu'aux autres et notamment aux églises protestantes. Cependant, vous allez aujourd'hui consacrer une émission aux réactions des protestants face à la commémoration du baptême de Clovis. Pourquoi ce choix éditorial, j'allais dire ?
Alors, c'est une sorte de petit bonus, si je puis dire, hein, dans la longue série des émissions consacrées au 15e centenaire, mais qui se justifie par le fait que la mémoire protestante a souvent été antagonique de celle de l'Église catholique, parce qu'en France, le protestantisme est une religion minoritaire qui a longtemps été persécutée et qu'il existait encore au 19e siècle un anti-protestantisme catholique assez virulent. D'ailleurs, le lieu de mémoire par excellence du protestantisme, c'est le musée du désert, donc dans les Cévennes, qui commémore la persécution des Cévenoles au moment de la révocation de l'édit de Nantes et la révolte des Camisards. Et encore aujourd'hui, le premier dimanche de septembre est marqué par l'Assemblée du désert qui voit converger vers les Cévennes des protestants venant de toute la France. Pour information, la prochaine aura lieu le dimanche 1er septembre 2024. Dès lors, il m'a semblé intéressant de voir comment les protestants français de la fin du XXe siècle, aborder la commémoration du baptême de Clovis, dont on a vu qu'elle présentait le risque d'être récupérée par des courants traditionnalistes catholiques, pas toujours très convaincus de la nécessité de l'œcuménisme.
Les protestants ont-ils produit des documents à propos de l'événement ?
Oui, alors justement, c'est sur eux qu'on va s'appuyer. L'événement ayant eu un retentissement plutôt important, la Fédération protestante de France a estimé devoir organiser une soirée publique le 16 septembre 1996 à Paris sur le thème « Faut-il commémorer Clovis ?». Et donc, beaucoup d'historiens et de sociologues protestants, connus et reconnus, y ont participé, à commencer par Pierre Chaunu, qui lui avait consacré un ouvrage en collaboration avec Éric Mention-Rigaud. Pierre Chaunu est luthérien, mais aussi Jean-Paul Willem, Jean Bobéraud, Joël Schmitt. Et dans son compte-rendu daté du 21 septembre, l'hebdomadaire Réforme nous dit, je cite, « Non, finalement, on n'aura pas vu les protestants se battre dans la salle pour ou contre Clovis. » La soirée avait été l'occasion pour les protestants de réfléchir sur la notion de laïcité, à la mise en œuvre de laquelle certains d'entre eux avaient largement contribué à l'époque de Jules Ferry, a commencé par Ferdinand-Buisson. Et réforme concluée ainsi, salle comble et comblée, beau succès, une excellente soirée.
Il s'agit donc, Jean-François Boulanger, d'un débat intellectuel très parisiano-centré, semble-t-il. Mais que se passe-t-il à Reims ?
Eh bien, dès le mois de juin 1996, le conseil presbytéral de l'église réformée de Reims avait publié une déclaration sur le 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Et ça a été l'occasion pour ce conseil presbytéral de, je cite, « réaffirmer quelques convictions en matière de laïcité et d'œcuménisme ».
Ces positions sont-elles très différentes de celles de l'Église catholique ? C'est l'occasion de faire ce parallèle, justement.
Voilà, parce que, effectivement, le texte, sur pas mal de points, aurait pu être signé par des membres de la hiérarchie catholique. Exemple, je cite, « Dans le cadre de ces manifestations, il convient d'éviter toute récupération religieuse, nationaliste ou politique particulière. Ben, » c'est justement le souci de l'Église catholique dès le début de la préparation de la commémoration. Le conseil presbytéral ajoute, je cite toujours, « Un baptême, dans une perspective chrétienne, concerne toujours une personne et jamais un pays. Ben, » là aussi, c'est la position que l'Église défend depuis à peu près la même date. Troisième citation, « L'événement Clovis et les mythes engendrés appartiennent à l'ensemble du peuple français et même à l'Europe tout entière. N'avons-nous pas dit qu'à un moment donné, on a présenté les Francs comme un peuple européen ?» Donc, vous voyez, tout cela est très parallèle. D'ailleurs, les protestants peuvent s'associer à la réflexion dont le 15e centenaire est le point de départ. Je cite toujours, « De telles manifestations offrent l'occasion d'étudier des problématiques anciennes avec un œil nouveau et critique, c'est pourquoi quelques protestants participent volontiers à des colloques, sous-entendu catholiques, qui abordent des questions actuelles telles que le sens du baptême, les rapports Église-société, la laïcité aujourd'hui. »
Justement, vous parlez de laïcité, Jean-François Boulanger, n'est-ce pas là le nœud du débat ? N'y a-t-il pas risque de divergence entre catholiques et protestants sur ce point précisément ?
Alors voici ce que dit le texte à ce propos, je le cite. « Dans la France actuelle, toutes les composantes de la société, juifs, musulmans, chrétiens, croyants et incroyants, ont à nouer un dialogue pour ensemble définir les valeurs communes d'une laïcité nouvelle, d'une laïcité ouverte, comportant en son cœur les droits de l'homme. Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, ont à participer à ce vaste débat public et laïque, sans imposer, mais en proposant, à rechercher avec d'autres des chemins de justice et d'humanité. »
Il ne faut donc pas compter sur les protestants pour participer aux polémiques du moment.
Exactement, et d'ailleurs pas plus que les juifs, puisque le rabbin Haïm Korsia, qui était à l'époque rabbin de Reims et qui est devenu donc grand rabbin de France, était présent à la messe de Reims. Et d'ailleurs la conclusion de la proclamation du conseil presbytéral est sans ambiguïté. Je les cite, « À une époque marquée par un retour identitaire et le repli sur soi, nous sommes en 1996, les églises chrétiennes ont à développer des relations fraternelles et confiantes dans le respect mutuel. Elles ont à témoigner d'une espérance évangélique qui donne sens à l'existence et affirme la dignité de tout autre humain. » Et justement, c'est sur la dignité de tout autre humain que Jean-Paul II avait insisté lors de son passage à Tours et de sa rencontre avec les blessés de la vie.
Pour conclure, Jean-François Boulanger, Clovis n'a donc pas été un sujet de discorde entre catholiques et protestants.
Non, il a été plutôt une sorte de test témoin de la solidité d'une évolution qui a vu à la faveur de l'œcuménisme les chrétiens se rapprocher pour envisager les chemins qu'ils pouvaient parcourir ensemble, et le test témoin est favorable.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé. Vous nous avez dit au tout début de cette chronique que cet épisode 9, Clovis et les protestants, était un bonus. Est-ce qu'on aura le droit à un épisode 10, un making-of, un best-of sur Clovis, ou on s'arrête là et on recommence quelque chose de nouveau?
On verra, mais voilà, il n'y aura pas de bêtisier, hein, je vous rassure.
Bon, pas de bêtisier, c'est noté. Merci Jean-François Boulanger. Et puis on se retrouve très bientôt à l'occasion de la rentrée la semaine prochaine. Merci beaucoup.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, dans cette émission, on retrouve souvent, et même tous les jours d'ailleurs aux alentours de 18h20, un maire qui nous parle. Alors avant de retrouver notre maire d'aujourd'hui, je signale que un pôle scolaire va voir le jour d'ici 3 ans. C'est ce qu'a décidé le conseil municipal de Villesmeuse il y a quelques jours. Le démarrage d'une première tranche de travaux de 3,5 millions d'euros prévue pour septembre de l'année prochaine, avec ouverture d'un pôle primaire en septembre 2027. C'est à Villesmeuse, dans les Ardennes. Son maire, Jérémy Dupuis, est régulièrement l'invité de l'émission « Votre maire nous parle ». Mais le maire qui est avec nous aujourd'hui, c'est Alain Massot. Il est maire de Doumélie-Bogny, dans le département des Ardennes. Alain Massot, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
C'est Doumélie-Bogny.
Oui, Doumélie-Bogny. Doumélie-Bogny, c'est la réunion de deux villages d'il y a dans les années 50 à peu près, donc du village de Doumélie et Bogny à côté, donc espacé de 1,5 km, deux villages qui se sont associés à cette époque pour créer donc Doumélie-Bogny.
Combien d'habitants a Doumélie-Bogny aujourd'hui?
Donc Doumélie-Bogny, c'est 90, 92 habitants à peu près.
Avec beaucoup d'agriculteurs, on imagine, des cultivateurs, comme on dit dans les Ardennes.
Oui, enfin, c'est 4-5 exploitations, mais qui ne font vivre que 4 ménages à peu près. Donc, village très rural, mais malgré tout, la population ne vit pas, ne travaille pas l'agriculture en majorité.
Oui. Alors, ils travaillent, est-ce qu'il y a, peut-être beaucoup de retraités, mais ceux qui travaillent, ils travaillent dans quelle ville? Pas très loin de chez vous, à Doumélie-Bogny, quel est le bourg ou la ville la plus proche en kilomètres?
La plus proche, c'est Rethel, 20 kilomètres au sud de Doumélie-Bogny. Donc, une partie des gens travaillent là-bas. Sinon, c'est Charleville-Mézières ou voire Reims pour d'autres.
Il faut dire que dans des villages, alors je ne sais pas si c'est le cas de Doumélie-Bogny, mais il y a des personnes jeunes d'ailleurs qui préfèrent, d'ailleurs parce que c'est un peu moins cher, avoir une maison, avoir un petit terrain autour dans le monde rural, que d'acheter quelque chose, par exemple, dans une ville où c'est quand même un peu plus hors de prix. Est-ce que vous avez des jeunes dans cette situation? Ou des plus jeunes?
Oui, tout à fait. On a vu une évolution depuis quelques années, peut-être aussi un peu avec l'effet Covid, mais c'était une tendance où des habitations qui se libéraient étaient rachetées, reprises par des jeunes couples, n'avaient pas d'origine ni d'attache dans nos communes, mais apparemment qui souhaitaient.
Mais vous-même, c'est une question un peu indiscrète, Alain Massot. Est-ce que vous êtes né, vous, à Doumélie-Bogny?
Oui, moi je suis né, bon, je suis issu d'une famille de paysans donc et agriculteur moi-même, donc dans la continuité, j'ai 57 ans et donc 57 ans dans la commune.
Mais alors, vous-même, c'est intéressant, vous êtes agriculteur dans un village des Ardennes. Actuellement, il y a une crise agricole. Quel est votre avis en ce moment? Est-ce qu'on tient compte réellement des revendications des uns et des autres? Et est-ce que c'est vivable pour les agriculteurs qui se trouvent dans les Ardennes?
Les revendications, elles sont soit répétées depuis longtemps, ou il y a les dernières revendications suite aux manifestations, ou manifestations encore en cours, qui, elles, sont très récentes, donc oui. Les résultats sont à attendre, mais on sait qu'il faut du temps. Bon, c'est bien un cri, un appel au secours quand même.
Toute la profession, on peut dire. C'est unanime.
Oui, oui, tout à fait. Parce que la pression augmente trop, pression administrative, l'environnement qui est bien nécessaire, mais pas toujours bien amené ou bien préparé. Et puis une image de l'agriculture qui n'est pas forcément bien diffusée. Donc, l'agriculture voudrait se reprendre un petit peu en main et donner une autre image d'elle.
On aura l'occasion, bien sûr, Alain Massot, d'y revenir, mais revenons à la commune de Doumélie-Bogny. Est-ce qu'il y a des projets? Évidemment, dans une commune de 89 ou 90 habitants, une petite centaine d'habitants, on n'a quand même pas des moyens considérables. Vous êtes peut-être un peu aidé quand même, normalement, par la communauté de communes, mais est-ce qu'il y a un projet ou deux qui étaient en cours, qui viennent de s'achever, ou est-ce que vous envisagez pour les mois, voire les années qui viennent, quelque chose un petit peu pour la commune?
Bon, évidemment, il y a peu de projets puisqu'il y a peu de moyens financiers, et donc un projet, dès qu'il est un peu conséquent, forcément, il faut du temps avant d'en ressortir à nouveau, si je puis dire. Et donc, les projets ou les réalisations actuelles, c'est la voirie et l'entretien des bâtiments communaux. Donc, ils ne sont pas nombreux, mais les églises et les mairies...
Tout à fait, on parle de l'entretien, mais de façon plus générale, les personnes qui viennent, par exemple, vous parlez de jeunes qui viennent s'installer, ils sont attachés quand même au beau cadre de vie, une amélioration. Il y en a qui, est-ce que vous mettez des fleurs, est-ce que vous avez essayé d'embellir un petit peu, mettre un petit peu de verdure, ou je ne sais pas. Parce que là aussi, il y a des normes, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'a pas de mettre du goudron n'importe où. Vous avez une idée d'améliorer, d'embellir un peu la commune?
Oui, bien sûr, c'est toujours l'objectif d'embellir ou de rendre les choses ou la vie plus agréable dans la mesure des moyens. La population, la nouvelle population, n'est pas forcément très attachée à la vie du village, mais bien sûr... Mais
parce qu'elle travaille, elle est là, elle rentre le soir, elle repart le matin. Si elle travaille à Rethel ou à Charleville-Mézières, voire à Reims, elle n'est pas toujours présente dans le village.
Bien sûr, les journées sont longues pour toutes ces personnes-là. Et puis bon, leur attente, c'était quand même de se reculer un peu de la ville, d'avoir besoin de calme, un peu d'espace autour.
Et vous-même, vous allez parler d'agriculture, mais est-ce qu'il y a de l'élevage chez vous? Peut-être pas beaucoup.
Si, on est dans des zones intermédiaires où il y a de l'élevage et de la grande culture, notamment l'élevage ici, couramment l'élevage laitier ou allaitant, quoi.
Et donc là, vous allez donner votre lait, on vient ramasser, je ne sais plus comment ça se passe, à la laiterie toute proche.
Oui, voilà, un camion collecte le lait tous les deux ou trois jours, selon les situations, et l'emmène en usine pour la transformation.
Comment s'appellent les habitants de Doumélie-Beni? Parce qu'avec un nom à deux villages comme ça, ils ont un nom particulier ou ils n'en ont pas?
Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je ne le sais pas et on n'a aucune trace écrite de cela. Donc,
mais quand c'était Doumélie tout seul, il y avait quand même quelque chose, non? Il n'y a jamais eu, quand il n'y avait pas la fusion des deux communes, des deux villages.
Justement, mais je vous dis, on n'a aucune trace écrite et bien sûr, maintenant
écoutez,
les mémoires...
Monsieur le maire, on peut en inventer une, nous, sur RCF. On va les appeler les Doumeliens, ou les Doumelinois, Béniniens. En tout cas, on arrête les plaisanteries. On est heureux de vous avoir, bien sûr, avec nous, aujourd'hui, à la Manceau. C'est l'occasion pour nous de vous encourager, parce que vous faites un beau métier dans l'agriculture, dans l'aménagement des paysages, dans l'aménagement du territoire. S'il n'y avait pas les agriculteurs, on se demande ce qu'on ferait. Il y aurait des friches un peu partout. Merci en tout cas d'avoir été avec nous à la Manceau. Puis faites-nous une promesse. On le refera d'ici la fin de l'année. On vous recontactera pour ouvrir avec vous une nouvelle page de Votre Mère nous parle. Au revoir à la Manceau. Très très bonne journée.
Au revoir Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, on en a beaucoup parlé encore hier soir à propos du RSA, avec une règle un peu différente, et le département des Ardennes et de la Marne sont concernés, ils font partie des 47 départements qui vont appliquer la mesure, à savoir que pour toucher le RSA, il faudra que les personnes travaillent une quinzaine d'heures par semaine. On aura l'occasion d'interroger sur ce sujet tout prochainement le président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose, qui sera avec nous. En attendant, il est pratiquement 18h30, c'est l'heure de retrouver le journal à Reims et dans les Ardennes. Le festival Jubilaté, il va avoir lieu du 15 au 17 mars prochain dans le diocèse de Reims-Ardennes. Pour l'instant, 123 jeunes sont inscrits. On en attend encore plus. Il est encore temps, bien sûr, de le faire. On entendra tout à l'heure les explications de Sylvie Lahotte. Et puis, on reviendra sur un second extrait. Nous avons entendu un premier extrait hier soir de ce que nous disait Thierry Huet des agriculteurs. Il faut dire que même si le salon de l'agriculture est fermé. Les questions posées aux agriculteurs demeurent. Nous l'écouterons dans quelques instants. Côté météo, eh bien, il faut savoir que la situation sera un peu meilleure demain avec des températures de 2 le matin à 11 l'après-midi. Mais surtout, le soleil pourrait refaire d'une certaine façon son apparition. Dans notre édition, on parle souvent des agriculteurs. Il faut dire qu'ils constituent dans nos territoires ruraux un monde important et beaucoup d'auditrices et d'auditeurs y sont attachés. Agriculteurs et bien sûr aussi, évidemment, viticulteurs. Vous avez pu entendre ce matin à 7h01 et 8h01 Thierry Huet, qui représente la FNSEA dans les Ardennes. L'occasion pour nous de revenir sur un extrait de ce qu'il nous disait ce matin. On l'entendra en intégralité tout à l'heure. Thierry Huet.
Nous avons aujourd'hui, de la part du gouvernement, un certain nombre de positions, d'annonces qui ont été faites, avec des annonces qui sont, pour certaines, très claires. Je prends l'exemple du GNR. Pour d'autres, qui sont des procès d'intention, je prends l'exemple de la partie allègement des normes et contraintes. Et puis, je prends d'autres éléments qui sont là d'ordre plutôt très long terme, qui sont notamment les états généraux de l'alimentation, avec notamment la question des prix et notamment des prix de production. Et là, à ce stade, je suis agriculteur, je suis rentré chez moi. Concrètement, ma vie n'a pas changé depuis le salon, ma vie n'a pas changé depuis les annonces. Ce que j'attends aujourd'hui, je sais que nous avons des collègues au niveau parisien, responsables syndicaux notamment, qui sont encore au quotidien en égo avec les ministères pour négocier les petites lignes. Et nous, dans le département des Ardennes par exemple, nous sommes aussi en égo sur certains points vendredi matin prochain. Nous avons donc posé rendez-vous à la DDT, à la police de l'eau, aux parlementaires, pour évoquer la problématique de l'entretien des cours d'eau et la problématique de permettre une meilleure facilité et quelque part un meilleur entretien des cours d'eau et sortir de la pure contrainte administrative.
Après Thierry Huet, on ouvre à nouveau l'agenda diocésain, on l'a signalé hier. Il faut savoir que le père Marc Geoffroy, bien connu dans le département des Ardennes et à Reims, est décédé à l'âge de 80 ans et 52 ans de sacerdoce. Il était à la maison Nicolas Roland, il était très connu dans le diocèse, il avait assuré bon nombre de ministères et ses obsèques auront lieu après-demain, jeudi 7 mars à 14h30 en la basilique Saint-Remi de Reims. En attendant, du 15 au 17 mars prochain, en cette période de carême, le festival Jubilaté nous donne rendez-vous. Ce sera au collège Saint-Joseph de Reims. Évidemment, bon nombre de jeunes ont participé à la rencontre pendant les vacances autour du ski. Ils étaient aussi présents au moment des JMJ de Lisbonne. Alors, est-ce que dans notre diocèse, il y aura un effet JMJ, un effet aussi de toutes celles et de tous ceux qui accompagnent ces jeunes et qui les encouragent à se retrouver dans le chant, la louange, la prière? Et bien pour en savoir plus, Sylvie Lahotte est avec nous. Elle est responsable de la pastorale des jeunes de 13 à 18 ans. Sylvie Lahotte, bonjour. Alors justement, en quoi va consister cette rencontre jubilatée qui va avoir lieu dans un peu plus de 8 jours?
Chaque année, depuis 2018, nous nous retrouvons à peu près à cette période de l'année pour le rassemblement, donc rassemblement pour les jeunes de la 3e collège à la terminale. C'est un rassemblement diocésain. C'est vraiment pour notre diocèse. Alors ça concerne les jeunes de cet âge-là, qu'ils soient dans des aumôneries de paroisse, qu'ils soient dans des mouvements, le scout, les mèges, ou dans des établissements catholiques.
Où va avoir lieu ce rassemblement, Sylvie Lahotte?
Alors, à l'établissement Saint-Joseph, à Reims.
Et alors, est-ce qu'il y a un effet, entre guillemets, JMJ, c'est-à-dire que des jeunes aiment se retrouver? Est-ce que là, dans le diocèse, c'est un peu difficile parfois, dans les week-ends qui ne sont pas des vacances scolaires, mais là, ils se manifestent, ils commencent à se manifester?
Oui, oui, là, nous en sommes aujourd'hui à 127 inscrits.
Mais vous avez fait sauter les compteurs, là, Sylvie Lahotte. Vous n'avez jamais... 127, c'est quand même assez important.
Ah oui, oui, mais on espère encore monter, parce que là, nous sommes en pleine vacances scolaires. Hein. Alors, il y a le temps, il y a ceux qui ont pris le temps de s'inscrire pendant les vacances en disant « on le fait tout de suite ». Et puis, vous savez, ce sont des jeunes. Hein. Lundi prochain, ils vont dire « oh, mais j'ai oublié de faire mon inscription ». Mais il n'y a pas de souci, on peut toujours s'inscrire.
Voilà, c'était Sylvie Lahotte qu'on retrouvera plus complètement tout à l'heure dans notre journal et surtout plus complètement demain matin puisqu'elle sera l'invitée à 7h01 et 8h01 dans le cadre de nos matinales. Pour terminer, je le disais en titre d'ailleurs tout à l'heure, mais on peut y revenir, la météo, car ça concerne les agriculteurs et les viticulteurs, mais ça concerne tout le monde. Un peu plus de soleil demain. Il faut dire que les températures restent tout de même très fraîches le matin, aux alentours de 2 degrés, mais c'est de saison. Il faut rappeler que demain, nous serons le 6 mars, et les maximales de 11 à 12 degrés. Le magazine se poursuit. On se retrouve dans un instant.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
En cette période de carême, nous donnons un coup de projecteur à toutes celles et ceux qui s'engagent dans des actions de solidarité. C'est le cas avec le Secours catholique qui organise de façon régulière des maraudes. Ils vont à la rencontre des plus démunis et ils n'attendent pas que les démunis viennent au Secours catholique. Ils vont sur le terrain à leur rencontre de façon régulière et permanente. Et pour nous en parler, Marie-Annick Roger et le docteur Thierry Jacotot sont avec nous. Marie-Annick Roger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Thierry Jacotot, bonjour. Alors on va aujourd'hui parler du Secours catholique. Deux axes un peu différents mais qui sont finalement la même chose, le café sourire et les maraudes du Secours catholique. Alors Thierry Jacotot, vous êtes médecin, on vous a déjà accueilli sur notre antenne en tant que, en tant que pédiatre, mais aujourd'hui le café sourire du Secours catholique, qu'est-ce que c'est exactement?
Les personnes qui viennent au Secours catholique peuvent venir prendre leur petit déjeuner tous les matins, sauf le dimanche.
8h30, 11h.
Voilà.
Il y a un public habitué?
Le public est tout à fait habitué.
Alors café, mais aussi jus de fruits, enfin il y a...
C'est ça, un petit peu copieux. Il y a vraiment il y a un petit déjeuner, et quelquefois c'est très utile.
Mais alors c'est
et notamment même pour des enfants. Oui, c'est tous les jours, sauf le dimanche.
Ça veut dire qu'il y a quand même toute une équipe au Secours catholique, parce que...
Plusieurs équipes.
Il faut forcément, tous les jours, il faut assurer, comme on dit.
Bien sûr.
Alors évidemment, vous faites ça depuis plusieurs années, vous connaissez les personnes, ils vous connaissent par votre prénom, un peu, beaucoup, ça dépend lesquels.
Pas forcément, mais...
Ils vous connaissent en tout cas.
Oui.
Alors le Secours catholique, bien sûr, on connaît bien, Marie-Annick Roger, il y a aussi ce qu'on appelle la maraude, ou ce qu'on appelle aussi le café de rue. Alors Marie-Annick Roger, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est finalement la maraude du Secours catholique? Ça consiste en quoi?
Eh ben, ça consiste en une équipe de deux personnes qui va dans la rue au devant des SDF. Parce que ceux-ci, ou n'ont pas envie, ou ont peur de venir au Secours catholique pour prendre leur petit déjeuner. Ou quelquefois, ils font les deux. Ils viennent prendre leur petit déjeuner au Café Sourire et ils repartent dans la rue, ils nous attendent pour avoir un autre café avec un petit gâteau.
Alors Marie-Annick Roger, vous avez un parcours, la place d'Erlon, la mairie, la rue de Velle.
Tout à fait, on commence par la place d'Erlon et puis après on remonte pour essayer de trouver des personnes dans les rues un peu adjacentes. En fin de compte, on termine, moi j'allais jusqu'au marché de Saint-Maurice. Maintenant, on a de moins en moins de personnes dans l'axe Gambetta. Et on fait surtout la rue de Velle, où là, on a beaucoup de monde.
Thierry Jacotot, justement, oui. Je le disais tout à l'heure avec le Café Sourire, sur le parcours que vous empruntez, vous avez en quelque sorte des visages que vous connaissez. Ils vous reconnaissent, là,
Oh oui, énormément. Ils sont très contents de nous voir. Ils sont très, très contents de nous voir. Et ils parlent, et on propose un café. Et en même temps, ils commencent à parler, et ils libèrent, ils disent ce qu'ils ont envie de raconter. Et ça, c'est très important.
Marie-Annick Roger, vous avez dans un petit sac ce qu'il faut, parce que...
Alors, moi, j'ai le sac à dos, parce que je ne peux plus porter de charges lourdes. Et mon binôme porte gros thermos de café. Et on propose un café. Il y a des gens qui sont un peu désolés parce qu'ils voudraient bien du thé, mais on ne peut pas tout transporter non plus. Et dans mon sac à dos, il y a des gâteaux, des madeleines, des sucres, des petites touillettes, et puis quand il le faut, il y a des masques, il y a du gel pour les mains.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes attendu d'une certaine façon?
Oui.
Ça, c'est sûr,
c'est certain.
Ils connaissent les horaires à peu près,
ils savent
bien que c'est entre 9h et 11h, il faut être revenu au Secours catholique, ils connaissent les personnes, ils vous reconnaissent, Marie-Annick Roger. Vous arrivez un petit peu comme la personne qui les raccroche à une autre vie, à une vie, j'allais dire, entre guillemets, normale.
Oui, tout à fait. Et non seulement ils nous reconnaissent, mais ils nous attendent. Et quand on se promène en ville, en dehors de la maraude pour faire des courses et tout, ou quand on va à la messe, à la cathédrale et autres, mais je vous ai pas vu mardi, vous êtes pas venu, vous étiez pas malade. C'est assez sympathique d'ailleurs les liens qu'on crée avec eux, parce que on se rend compte qu'on n'est pas seulement un distributeur.
Mais ces liens-là, ils sont très importants, parce que les personnes qui donnent de l'argent aux mendiants le font souvent sans les regarder, en déposant des pièces uniquement dans une écuelle. Et ça, ça finit par les blesser très profondément. Et nous, nous n'apportons pas d'argent, nous apportons un café et surtout de la parole et du sourire. Et on écoute et ils nous disent ce qui va, ce qui ne va pas dans leur vie. Et ça, c'est très important.
Vous êtes au courant aussi, avec l'habitude, de leur vie un peu personnelle.
Oui.
Au bout d'un certain temps, vous connaissez un petit peu ces personnes.
Oui, tout à fait. Notamment, par exemple, il y a une personne que nous voyons très régulièrement et qui, maintenant, ne peut plus loger là où elle était logée généreusement par un couple qui a déménagé, qui est parti un peu plus loin. Et nous allons essayer de rassembler un maximum de renseignements pour qu'on puisse lui fournir un jour un appartement dans lequel il pourra vivre, cette personne pourra vivre.
Alors la question, combien y a-t-il d'équipes, Marie-Anne et Roger ? Vous n'êtes pas simplement tous les deux, il y a d'autres personnes.
Pas du tout, pas du tout. Il y a trois journées où on tourne, le mardi, le jeudi, le vendredi. À chaque fois, il y a un binôme. Et par exemple, mon binôme à moi, en ce moment, il a été opéré du bras, donc il ne peut pas m'accompagner parce qu'il ne peut pas porter. Et donc, j'ai toujours quelqu'un au Secours catholique, c'est extraordinaire. C'est très rare qu'on soit en manque. Une fois, j'ai pas pu le faire parce que personne ne pouvait m'accompagner, parce que l'équipe était pas assez nombreuse sur place pour les petits déjeuners, pour pouvoir me donner quelqu'un pour m'accompagner. Ou sans ça, j'ai toujours trouvé quelqu'un. Alors, il faut savoir qu'on a des étudiants qui sont là parce que ils ont dans leur cursus une obligation de faire un stage dans le social. Donc, ils sont là au Secours catholique et c'est souvent un de ceux-là qui m'accompagne. Ou alors, il y a aussi des réfugiés qui sont maintenant bénévoles au Secours catholique et qui nous accompagnent dans la rue pour connaître et apprendre un peu ce que c'est.
Alors ça, c'est pour ceux qui aident, c'est vous. Et a-t-on une idée du nombre d'aidés, Thierry Jacoteau ? Peut-être pas forcément en tête, à quelques unités près.
Minimum. Minimum. Auparavant, c'était plutôt 12 ou 15.
Donc il y a quand même, avec le nombre d'équipes, quand même pas mal de personnes qui sont contactées.
Oui. Oui.
Combien de temps, le nombre de fois par semaine, vous l'avez dit, donc c'est tous les jours avec la maraude, le café de rue.
Il y a trois maraudes par semaine, mais il y a tous les jours un café sourire, sauf le dimanche.
Et alors, j'ai déjà posé la question, oui. Mais on peut être dans la maraude et revenir au café sourire, c'est
oui,
pas interdit.
Bien sûr.
Est-ce que ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle, et c'est sans doute la grande richesse du Secours catholique, le maillage du Secours catholique qui finalement a des contacts avec les personnes, les aidants, les aidés, ça forme, j'allais dire, entre guillemets, une famille, la famille du Secours catholique. Vous appréciez, vous, Thierry Jacoteau, cette famille ? C'est une ambiance particulière.
Oui. Et puis qui est nécessaire et ça nous donne du dynamisme.
Il faut dire, Marie-Annick Roger, que vous connaissez le Secours catholique, que je pense que vous l'avez présidé à un certain temps.
Non, pas du tout. C'est ma belle-mère qui était déléguée du Secours catholique pendant 35 ans, je crois. Et c'est comme ça que moi j'ai connu le Secours catholique.
Vous avez quand même baigné, j'allais dire, dans cette aide.
Depuis mon mariage, servir la soupe.
Eh ben écoutez, c'est quand même formidable. On est en période de carême. On est heureux de vous accueillir. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que d'ici quelques temps, on puisse vous retrouver et faire un autre bilan, revoir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous en ce 29 février. Mm-hmm. Et alors, on vous retrouve bientôt.
Jean-Pierre, si on a encore une petite seconde. Il y a des gens qui nous interpellent dans la rue pour nous demander ce qu'on fait et qui, à la suite de ça, ils nous disent on n'a pas de sous à donner, particulièrement des jeunes, mais par contre, on viendrait bien vous aider. Voilà, alors, on leur donne l'adresse et ils viennent. Donc, ils
c'est
sont
formidable.
Tous les bienvenus.
Merci Thierry Jacoteau, merci Marie-Annick Roger.
Merci Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Voilà, le 18-19 avec un invité que nous avons entendu ce matin dans le cadre des matinales à 7h01 et 8h01. Il s'agit de Thierry Huet qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais c'est normal parce que il y a une vraie préoccupation dans le monde agricole qui n'a pas été dissipée avec le salon de l'agriculture. Nous sommes dans une phase d'attente. Il y a des négociations qui se poursuivent ici et là, dans certains ministères, au sein même de préfectures, sur tel ou tel argument important dans le cadre des filières agricoles, que ce soit le lait, que ce soit l'élevage ou que ce soit bien sûr des sujets qui concernent bien sûr le salaire, le traitement des agriculteurs. Comment d'ailleurs sont-ils traités financièrement? On avait entendu dire il y a quelque temps que l'État pourrait venir au secours de ceux et celles qui sont le plus en difficulté. Thierry Huet est avec nous. Thierry Huet, bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Thierry Huet. Alors c'est vrai que on vous avait interrogé il y a quelques jours au moment où il y avait des manifestations d'agriculteurs. Ça s'est un peu calmé, bien entendu. Il y a eu le salon de l'agriculture qui s'est terminé dimanche. Comment avez-vous vécu ce moment? Est-ce que ce salon, finalement, au bilan, c'est quand même été un bon salon? Vous y êtes allé, bien entendu, Thierry.
Oui, bien sûr. Le bilan est très mitigé. Très mitigé parce que l'ambiance était réellement, je veux dire, elle n'était pas chaleureuse. On a effectivement plusieurs choses. Un, on a vécu des éléments donc présents là-bas où on sentait quand même la problématique agricole et une vraie détresse agricole, c'est un fait. On a senti en face aussi, malgré tout, je vais dire, de la part de certains politiques, alors je vais utiliser le terme non-respect, je mets ça entre guillemets, mais à défaut, c'est l'utilisation de façon médiatique du salon de l'agriculture à des titres personnels. Je trouve ça un peu malsain. Et puis, de la part du gouvernement précisément, on a bien entendu, et notamment avec lundi, des annonces, et samedi, donc il y a maintenant une dizaine de jours, des annonces qui ont été faites par le président, mais qui n'étaient pas à la hauteur. Et on a quand même aussi senti pour le gouvernement que le salon était un enjeu plutôt médiatique que concrètement technique ou concrètement de solution.
Je vais vous dire, vous êtes aussi victime de votre succès maintenant dans cette société médiatique qu'on peut dénoncer, et c'est vrai Thierry Huet, c'est un peu comme dans des endroits un peu mythiques ou magiques, il faut en être, il faut être là, donc les politiques, il faut qu'ils soient là, donc ils viennent.
J'ai rien contre leur venue, parce que leur venue c'est aussi une expression, un, ils ont besoin de se montrer, ils font de la politique, deux, c'est aussi pour apporter leur soutien, mais malgré tout dans les messages et dans l'hypermédiatisation, je trouve que c'est malsain. Nous avons des élections européennes dans quelques semaines, quelques mois. J'ai l'impression que finalement, c'est plus les élections européennes que les problématiques agricoles qui les intéressent aujourd'hui au premier titre.
Le salon, c'est fini. Vous dites bilan assez mitigé, assez contrasté. Mais bon, il y avait quand même toujours ce goût pour les Françaises, les Français qui viennent à découvrir les animaux en particulier. Mais alors aujourd'hui, où en est-on si on peut faire un bilan? Parce que là, on n'a plus beaucoup d'informations, Thierry Huet.
Non, tout à fait. Mais je vais vous avouer que même moi, je n'en ai pas énormément. Concrètement, nous avons aujourd'hui, de la part du gouvernement, un certain nombre d'annonces qui ont été faites, avec des annonces qui sont pour certaines très claires. Je prends l'exemple du GNR. Pour d'autres qui sont des procès d'intention, je prends l'exemple de la partie allègement des normes et contraintes. Et puis, je prends d'autres éléments qui sont là d'ordre plutôt très long terme, qui sont notamment les états généraux de l'alimentation, avec notamment la question des prix et notamment des prix de production. Et là, à ce stade, je suis agriculteur, je suis rentré chez moi. Concrètement, ma vie n'a pas changé depuis le salon, ma vie n'a pas changé depuis les annonces. Ce que j'attends aujourd'hui, je sais que nous avons des collègues au niveau parisien, responsables syndicaux notamment, qui sont encore au quotidien en négo avec les ministères pour négocier les petites lignes. Et nous, dans le département des Ardennes par exemple, nous sommes aussi en négo sur certains points vendredi matin prochain. Nous avons donc posé rendez-vous à la DDT, à la police de l'eau, aux parlementaires, pour évoquer la problématique de l'entretien des cours d'eau et la problématique de permettre une meilleure facilité et quelque part un meilleur entretien des cours d'eau et sortir de la pure contrainte administrative.
Mais on avait entendu par exemple récemment que Lactalis avait accepté une augmentation au niveau du lait. Est-ce que ça se concrétise?
Aujourd'hui, une réalité, Lactalis a effectivement accepté une augmentation de ce prix du lait. Maintenant, il l'a accepté dans le cadre d'une négociation très dure. Ça, c'est déjà le premier temps. Le deuxième temps, c'est que, malgré tout, en parallèle de ça, les prix fluctuent en permanence et les coûts de production fluctuent en permanence. Et à ce stade, la réalité, c'est que Lactalis a accepté une augmentation, mais qui n'est pas encore à la hauteur de ce que les agriculteurs attendent pour, justement, pouvoir combler leurs charges. Les charges d'un agriculteur, elles sont comme le citoyen moyen, elles augmentent au jour le jour, le prix d'électricité, le prix d'énergie, le prix de la main-d'œuvre, le prix, etc. Nos charges augmentent très régulièrement et de façon très importante.
On avait entendu dire également, Thierry Huet, que pour les revenus des agriculteurs, on allait engager des moyens financiers pour les aider assez rapidement en faisant une sorte de recensement des besoins. Est-ce que c'est avancé, ça ?
Ça existe déjà. Nous avons déjà dans le monde agricole un certain nombre de structures qui opèrent. J'en prends l'exemple d'une. Nous avons une cellule qui s'appelle Réagir, dans laquelle l'ensemble des agriculteurs ont à un moment donné dans leur vie une difficulté, que ce soit humaine, économique, de santé, peuvent donc taper à la porte pour justement être écoutés, entendus et avoir des pistes de solutions qui sont construites avec leurs partenaires, leurs banquiers, etc. Ça existe déjà, des éléments ont été annoncés. À titre personnel, je trouve que c'était plutôt de l'affichage parce que je ne trouve pas que la performance et la pertinence du système existant ait été améliorée, ça existait déjà.
Autre sujet alors qui peut provoquer, c'est que il y a au-dessus de ce qui se passe au gouvernement le niveau européen, et on a vu qu'il y avait un certain nombre de traités de libre-échange qui avaient encore été, j'allais dire, adoptés, en particulier avec le Chili. Là, ça peut mettre quand même de l'huile sur le feu, parce que là, on voit bien qu'on vote quand même les traités et que ça continue d'avancer.
Bien sûr. Là, on est sur le deux poids deux mesures, puisque d'un côté, il y a des propos, des engagements, de l'autre, on a effectivement ces traités de libre-échange qui sont, comment je vais dire, délétères, parce que faire rentrer aujourd'hui de la marchandise, Chili par exemple, de la viande origine chilienne, qui n'a pas été produite dans les mêmes conditions que les nôtres, c'est bien sûr, quelque chose qui est délétère pour les producteurs, mais qui, quelque part, est contre-productif.
Oui, mais je vous interromps, Thierry Huet, ça a été fait il y a 48 heures à Bruxelles. La France aurait pu, en tout cas, ou bien s'abstenir, en tout cas montrer son hostilité, ou ne pas voter. Mais ils ont voté, les députés, en particulier proches du gouvernement, ils ont voté ce traité.
Ah ben, tout à fait. Non seulement ils l'ont voté, mais c'est pour ça que j'allais arriver au fait que c'est contre-productif par rapport aux négociations qui sont en place, parce que d'un côté, on nous donne l'espoir, on nous donne le projet, de l'autre, on nous donne aussi des points d'alerte. Maintenant, je rappelle quand même une chose, sans vouloir défendre le gouvernement actuel, c'est que les députés européens sont aujourd'hui de toute nature et de tous bords politiques confondus. Et nous avons aujourd'hui, et c'est là où je suis un peu en difficulté avec la politique au sens large, des tendances qui ont utilisé le salon un peu comme étant des forces de le terme c'est quoi, de communication, qui eux aussi ont des représentants au niveau européen à Bruxelles, et qui soit ont voté, soit à un moment donné ne se sont pas abstenus ou n'ont pas fait leur job de parlementaire.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour terminer cette édition, je vous propose d'aller à la rencontre d'une émission qu'on retrouve sur l'antenne régulièrement de RCF qui s'appelle Parole de jeunes avec Jeanne Boudre, parce que finalement ça va nous donner un petit goût quand même de retour sur les langues qu'on appelait les langues mortes mais qui étaient très formatrices, en particulier la spécialité latin. On cherche parfois dans son orientation quelle filière on va prendre, quelle option on va prendre. Ben, le latin n'est quand même pas très très utilisé. On suit moins le latin qu'il y a quelques années. Alors la spécialité latin, selon Hugo, c'est le thème de Parole de jeunes de Jeanne Boudre.
Bonjour et bienvenue dans Parole de jeunes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hugo pour parler de la spécialité latin au lycée. Bonjour Hugo.
Bonjour.
En quoi consiste la spécialité latin ?
La spécialité latin, au complet, c'est LLCA, pour littérature, langue et culture de l'Antiquité. Donc, comme son nom l'indique, on étudie la langue, la littérature et la culture de deux grandes civilisations antiques, que sont la civilisation romaine et la civilisation grecque. Évidemment, on apprend tout ce qui touche à la linguistique, donc la morphologie, la syntaxe, mais on ne voit pas que ça. On voit aussi des éléments culturels, des personnages illustres, etc.
Qu'est-ce que tu y étudies ?
Cette année, en terminale, on a un programme qui consiste en deux œuvres. La première qui est une œuvre antique, hein, l'Énéide de Virgile, plus précisément le chant 6, et une œuvre moderne, une œuvre contemporaine qui est l'Âge de fer de Coetzee, où l'on suit l'aventure d'une ancienne professeure de latin atteinte d'un cancer en pleine Afrique du Sud qui est en proie à l'apartheid.
Pourquoi avoir choisi cette spécialité ?
J'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est histoire et géographie, je vais en faire mon métier. Et cette spécialité, on y voit, en première ou en terminale, des éléments historiques et géographiques. Mais pas que, je trouve que les langues anciennes sont assez sous-cotées, ce qui fait que beaucoup de gens la délaissent. Par exemple, en terminale, ici dans notre classe, nous ne sommes que 4. Je trouve que c'est un véritable intérêt pour à la fois comprendre notre langue qui vient majoritairement du latin, mais qui a des emprunts venant du grec ancien, mais aussi pour comprendre notre monde d'aujourd'hui, puisqu'il y a énormément d'actions qui ont été faites en référence à ces deux civilisations. On peut parler par exemple de l'Italie de Mussolini, qui voulait recréer une sorte de Rome.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette spécialité ?
Étonnamment, ce n'est pas l'aspect historique ou culturel, mais c'est l'aspect linguistique. Et donc, apprendre le latin, et aussi le grec ancien, même si on le délaisse un peu en terminale, puisque je me spécialise plus dans le latin en terminale. Je trouve ça vraiment intéressant de comprendre comment cette langue, qui a en très grande partie inspiré la nôtre et créé la nôtre, a pu évoluer jusqu'au français, et aussi comment elle se forme, comment elle sonne aussi.
Quels sont les inconvénients de la spécialité latin ?
Eh bien, le nombre d'heures, puisque... Même si l'on est censé avoir 4 heures en première et 6 heures en terminale, je n'en ai que 3 heures en première et 3 heures en terminale. On s'est bataillé pour avoir une heure en plus, donc une quatrième, mais avec le nombre d'heures qui n'est pas suffisant, on a du mal à vraiment se préparer au bac, à tel point qu'on doit faire plus de travail chez nous.
En quoi cette spécialité te sera-t-elle utile dans ton projet d'avenir ?
Après le lycée, donc après mon obtention du bac, je vais me diriger en faculté d'histoire à l'URCA, l'université de Reims-Champagne-Ardennes, pour me spécialiser par la suite dans l'histoire médiévale. Donc l'histoire médiévale, par exemple en France, on utilisait une sorte de latin vulgaire, un mélange entre le latin et le français d'aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, et la langue était plus proche du latin que du français. Et aussi, je souhaite me spécialiser dans l'histoire du Moyen-Âge byzantin, donc de l'Empire romain d'Orient. Et donc je vais devoir pas mal bosser mon grec ancien, puisque on y parlait le grec. Donc ça me sera utile pour des tas de raisons, notamment ma spécialisation un peu spéciale.
Merci beaucoup Hugo pour ta participation. C'est tout pour cette interview et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Merci à Jeanne Boudre d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien entendu la semaine prochaine pour ouvrir avec vous une nouvelle page de votre émission. Ainsi s'achève notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Nous nous retrouvons bien sûr demain, même heure, 18h10-19h. Et puis demain matin, à 7h01 et 8h01, notre invitée sera Sylvie Lahotte. Elle nous parlera de Jubilaté et de ce festival qui a lieu du 15 au 17 mars prochain. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.